Louvoigny. Ce soir encore, Raphaël Bourgois rencontre Patrick Bouchain. Tout de suite, autoconstruction, habiter autrement.
Bonsoir Patrick Bouchain.
Bonsoir.
C'est donc notre dernière émission, nous allons la consacrer à ce que vous avez appelé l'autoconstruction. On l'a déjà évoqué, hein, évidemment, assez vite, vous allez vouloir confronter vos méthodes, cette idée d'une architecture où l'architecte s'efface aux enjeux du logement à la destination de tous. Ce qui marche pour les lieux culturels pérennes ou éphémères comme le magasin de Grenoble, le lieu unique à Nantes ou le théâtre Zingaro à Hébervilliers, peut-il s'appliquer à la réalité de l'habitation? C'est Jack Lang, encore lui, qui vous donne l'occasion justement d'expérimenter. On est à Blois, on revient encore en arrière, en 1989, entre 89 et 94, et vous êtes le directeur de l'atelier public d'architecture et d'urbanisme. Quelle est votre mission à ce moment-là?
J'ai été, en effet, le secrétaire de Jack Lang quand on a créé ce mouvement Allons-Idées entre 1986 et 1988. François Mitterrand est réélu président de la République, Jack Lang est renommé ministre de la Culture, et à l'époque on pouvait donc être ministre et maire, et Jack Lang donc fait campagne pour la mairie de Blois. Il est élu maire de Blois avec une forte majorité, et une forte majorité dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle les ZUP, les zones à urbaniser en priorité. Et il me demande donc de l'accompagner à Blois, et voire même d'être son premier adjoint, enfin, avant la campagne, j'avais refusé, ou de prendre la direction d'un service. Et donc je propose de faire une expérience que la gauche avait promise en 1981 et qu'elle n'avait pas tenue, qui est donc la création d'un atelier public d'architecture et d'urbanisme, non pas pour faire une architecture socialiste ou une architecture d'État, mais peut-être de faire une architecture qui a une vision globale et peut-être de relier justement l'environnement dans sa totalité, paysage, urbanisme, donc architecture, design et peut-être même les activités économiques, si vous voulez. Et Jack Lang accepte, à titre expérimental, donc, puisque c'était interdit, la loi ne le permettait pas, qu'il y ait ce qu'on appelle une maîtrise d'œuvre publique. Et donc, je descends à Blois avec un ami avec lequel j'étais associé à l'époque, Jean Harari, qui était donc un inventeur et défenseur des ateliers publics, et on crée donc un atelier public. Et en annonçant cette disposition, Jack Lang, voilà, met à disposition de l'atelier public des locaux en centre-ville, à côté de la mairie, pour être justement près du pouvoir, comme on dit, puisque la mairie est en centre-ville, dans l'ancien évêché. Et puis, au bout de quelques mois, je m'aperçois quand même que c'est assez bizarre qu'on parle de toute la ville, mais on est encore au centre-ville, et qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut déplacer le centre et tout. Je me dis, mais il faut arrêter, il faut que je m'applique à moi-même toutes les critiques que je peux porter au système, jusqu'à temps de voir si on peut changer les choses. Et un jour, il y avait un débat public, et je l'ai souvent fait, si vous voulez. Si vous demandez des fois à un politique quelque chose dans son bureau, voilà, c'est quand même une demande organisée et feutrée, on pourrait dire, la personne peut donner. Si vous le faites de manière publique, c'est ce que j'appelle une commande publique, vous annoncez publiquement devant la personne, et elle est obligée, cette personne, de s'exprimer comme le discours qu'elle tient devant le public. Elle ne peut pas s'exprimer comme elle le pense elle-même. Et je dis, voilà, bah, j'ai pris la décision de déménager l'atelier public dans un rez-de-chaussée d'immeuble, d'un immeuble désaffecté et muré qui va être détruit, une tour dans la ZUP. Et c'est marrant, en l'annonçant comme ça, j'ai vu que dans la salle, les gens étaient un peu interloqués et il y a eu un applaudissement. C'est-à-dire que c'est comme quand vous dites une chose juste, et donc tout le monde s'est engouffré derrière, mais bien sûr, et quand, comment, et tout, et, l'office d'HLM qui était propriétaire s'est dit, moi je suis prêt à faire les travaux et tout. Et donc j'ai occupé une loge de concierge, parce qu'il y avait des loges qui avaient été supprimées, un local voiture d'enfant, un local poubelle, dans le rez-de-chaussée d'une tour, et on a mis l'atelier là, et on s'est rendu compte que tout le monde venait là, puisque du coup... Bon, j'étais très proche de Jack Lang, mais quand il voulait venir me voir, il venait là. Le préfet, quand même, qui était très attentif, ben, un ministre de cette importance-là, qui est maire, il venait là. Le directeur départemental de l'équipement, il venait là. Les adjoints, ils venaient là. Les associations, ils venaient là. Et on a vu d'un seul coup qu'en déplaçant, sans rien faire, puisque juste de démurer, voilà, une activité publique dont l'objet de cette activité, c'est l'aménagement, justement, de cette zone, ça avait retourné la situation.
Et la moi-même. La population, elle venait aussi? La population,
ah, ben, la population, elle était là. Alors, donc, du coup, c'était assez drôle parce qu'au début, il y avait de la drogue à cet endroit-là, il y avait un peu de prostitution, il y avait du commerce illicite, enfin, il y avait des gens qui vendaient au pied des camions des choses volées. Et donc, du coup, le fait qu'on soit là, ça n'a pas polissé les choses, mais disons, ça les a rendues normales. Moi, j'ai fait tailler les arbustes qui servent à rien, pour moins qu'on voit, refaire l'escalier, refaire un devant, changer des places de parking pour que ce soit peut-être plus agréable. Des enfants sont venus jouer, les enfants ont vu des gens travailler, et du coup, les commerces illicites se sont structurés, comme on dit. Voilà. Et puis, j'ai commencé à dire, mais pourquoi ça marche pas? Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ça marche pas déjà parce que toutes les rues qui mènent aux immeubles sont en impasse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la rue, c'est un parking, c'est pas une rue. Et donc, on a commencé à travailler sur déboucher les rues. C'est-à-dire faire qu'on puisse passer par la ZUP comme on passe dans un quartier. C'est-à-dire que du coup, c'est presque un système d'autocontrôle. On n'est pas besoin de faire rentrer la police, puisqu'il y a des voitures qui passent et tout. Donc, si la police y va, c'est pour régler la circulation, mais c'est pas pour contrôler. Et si une voiture passe, elle peut repérer, peut-être un dealer ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, on a commencé à déboucher les impasses pour créer des rues. On avait fait un plan de cette ZUP, il devait y avoir genre 80 impasses et 20 rues. Et quand vous regardez dans une ville, il y a plutôt 80 rues et 20 impasses, quoi. C'est l'inverse, si vous voulez, dans le centre-ville. Alors, du coup, en débouchant ça, on l'a intégré. Et après, très vite, je me suis dit, mais on va peut-être mettre un commerce pauvre. Moi, des fois, j'achète dans les Lidl. Et je me suis rendu compte que la bourgeoisie du centre-ville, elle achète aussi des produits de lessive dans ces villes-là, parce que c'est des fois des marques et tout. Et que donc, on a commencé à faire venir des gens du centre-ville qui ont fait leurs courses en ZUP. Et il y avait un marché arabe qui, avec beaucoup d'épices et tout. On l'a réellement réadapté comme un vrai marché, quoi. C'est, non pas sur des places de voitures et tout. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, mais ça marche pas parce que les gens n'arrivent pas à venir chez moi parce qu'il n'y a pas le nom des rues. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas mettre le nom des rues parce que les immeubles ne sont pas au coin des rues. Donc j'ai ramené les plaques de rue dans des rues. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'abribus. Il y avait des abribus en centre-ville, puis il n'y avait pas d'abribus en haut, il y avait des bornes de bus. Alors, du coup, on m'a dit, bah oui, c'est normal, puisque Jean-Claude Decaux, lui, il met les abribus à la disposition de la ville, là où il y a une population qui achète, parce que l'abribus, il est payé par le panneau publicitaire. Donc, bon, voilà, c'est assez facile. J'ai convoqué Jean-Claude Decaux. Voilà. Il arrivait ventre à terre, parce que comme c'était Jacques Lang, il voulait labelliser ces machins. Je lui ai dit, voilà, nous, on arrête le contrat avec vous si on n'a pas autant d'abribus en ZUP. Alors, bien sûr, j'ai eu le droit à mes abribus. Après, il n'y a pas de poubelle, par exemple. Il y a des poubelles en centre-ville, il n'y a pas de poubelle en ZUP. Mais j'ai tout fait comme ça. Après, j'ai commencé à regarder, mais il y a moins de jardiniers en ZUP qu'il y en a en ville, au nombre d'habitants. Alors, on dit, tiens, on va répartir uniformément les personnels techniques. Et j'ai fait, et j'ai fait, et j'ai fait. Oui, c'est pas de l'architecture. Mais je vous jure, il s'est passé à un moment donné un truc. On s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, ça a changé. Il s'est passé un truc, quoi. Et comme quoi, c'est donc possible. Mais pour moi, c'est de l'architecture.
Et alors, partir de ce besoin exprimé par ceux qui fréquentent les lieux, on pourrait penser que... On va vous accuser un peu de démagogie, voilà, de se dire c'est comment dire cosmétique, ça finalement, ou c'est satisfaire, oui, la bonne conscience, la bien-pensance, on dit aujourd'hui. Que si vous répondez à ça, Patrick Bouchard?
D'abord, moi, si j'habite la ZUP, parce que du coup, on avait loué un appartement en ZUP, on n'allait plus à l'hôtel, on avait acheté une Panda, la voiture la moins chère. Après, à un moment donné, je me dis, mais moi, si j'habite en ZUP, je vais faire mes courses. Moi, je vais boire un café. Je comprends pas, c'est pas du cosmétique. Pourquoi, moi, je peux pas boire de café? Ou si je bois le café en ZUP, il est plus cher qu'en centre-ville. Ou, voilà, je sais pas, il est enfumé parce que c'est en même temps un PMU. Enfin, je veux dire, des choses. Moi, je veux les mêmes choses. Donc, c'est pas un cosmétique, c'est un rééquilibrage. Ce qu'on dit tout le temps, mais ces gens-là sont au chômage, ils coûtent déjà cher, ces gens-là, donc payent pas d'impôts. Oui, ils payent pas d'impôts peut-être sur le revenu, mais ils payent un impôt sur la TVA, sur les produits. Et on sait que l'impôt sur la TVA rapporte énormément. Du coup, je pense que c'est un rééquilibrage, c'est une sorte de reconnaissance. Et après, quand on dit il y a moins de jardiniers en ZUP, j'avais fait l'essai, mais où ils habitent, les jardiniers de la ville de Blois? Il y avait 40 personnes qui travaillaient au service Espace Vert. Il n'y en avait pas beaucoup qui habitaient en centre-ville. Donc, eux, ils faisaient des ronds-points en centre-ville avec des écussons, des sangliers mélangés avec des salamandres pour faire François Ier. Et là-haut, il n'y avait pas. On a dit, mais attends, c'est pas possible. On va donc répartir pour que là-haut, un rond-point puisse être fleuri. parce qu'on ne voit pas pourquoi là-haut, il serait que... Voilà, et donc on avait associé le Festival des Jardins de Chaumont, qui avait donc pour objet de s'occuper de certains... de former ou d'accompagner des jardiniers, de jeunes paysagistes, en fin de compte, de leur donner un travail qui est un travail peut-être qu'ils devraient avoir à faire un jour, entretenir tous ces arbres qui ont été plantés à une époque dans les huppes et qui ne sont plus entretenus, par exemple. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas du tout populiste ni cosmétique, c'est respectueux. Est-ce qu'on a droit à la même chose? Est-ce qu'on vit dans la même ville? Voilà, donc, du coup, je fais ça pendant 5 ans, un mandat, quoi. Et c'était très fatigant, hein, parce que... Et en plus, j'avais décidé d'être payé comme un personnel de la mairie, premier poste, quoi. Donc, voilà, j'ai ne pas avoir de voiture de fonction, et ainsi de suite. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, et après j'ai dit à Jacques que j'ouvre une agence à Paris.
Est-ce que aujourd'hui on peut imaginer une façon différente de construire ces logements sociaux, ce que vous avez appelé donc la co-construction? Comment est-ce que ça marche?
Alors, j'ai à une autre époque, bien avant cela, participé à des mouvements après 1968 qu'on appelait l'habitat autogéré et groupé, donc seul bien entendu. Des bobos, on dirait aujourd'hui, pouvaient le faire. Mais c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on repérait un grand collectif, un terrain qui ne correspondait pas aux critères d'un promoteur immobilier. Et donc, parce qu'il était trop petit, parce qu'il était enclavé, parce que, voilà, il correspondait pas au modèle. On créait des sociétés civiles immobilières. On achetait, on empruntait collectivement. On était donc promoteurs pour nous-mêmes. On était autopromoteurs, autoconstructeurs et occupants. Donc du coup, après avoir fait cette expérience dans les années 70, après avoir fait dans les années 80 l'expérience de Blois, je me suis dit, bon, est-ce que maintenant je pourrais, et avoir fait, puis avoir un peu de la bouteille quand même, donc avoir vieilli et avoir un peu plus de culot ou un peu plus d'entre-gens, voilà. Est-ce que je pourrais prendre un sujet qui arrive aujourd'hui, puisque maintenant on démolit le logement social au prétexte qu'il n'est pas conforme au mode d'habiter? Alors je me suis dit, je vais essayer de démontrer que démolir, c'est une négation historique, on pourrait dire, du logement social, et c'est une négation de la vie sociale. Alors je me suis dit, je vais donc prendre des choses qu'on va détruire et occuper. Donc, quand même, la richesse principale du logement, c'est son habitant. C'est pas la pierre, c'est l'habitant. On va prendre quelque chose d'occupé et on ne va prendre comme argent que l'argent du coût de la destruction. Parce que détruire, ça coûte cher. Parce que pour détruire, il faut, pendant un certain temps, reloger une partie de la population. Pour d'autres, on la met un peu à la rue. Après, quand même, il faut détruire les matériaux, il faut les recycler, etc. Donc, c'est une valeur. Donc, là aussi, pour schématiser et être compris, on peut dire qu'une habitation vaut plus ou moins 40 000 euros à détruire. Donc, je me dis, je vais prendre ces 40 000 euros et je vais essayer de réhabiliter un logement pour le prix de sa destruction. Mais je vais essayer que cet argent soit utilisé d'une manière plus libre et plus humaine. Est-ce qu'on pourrait donner cet argent à la personne qui habite? Alors, on va dire, oh là là, de toute façon, ils sont alcooliques, ils sont désœuvrés, là, tu touches le plus dur et tout. Ben, justement, voilà, peut-être que c'est les conditions dans lesquelles ils habitent et les conditions sociales dans lesquelles ils sont qui les mettent dans cet état-là. Peut-être que, retravailler, alors on ne croit pas à la réinsertion, on ne croit pas à tout le travail social et tout. Alors, du coup, j'ai trouvé donc un maire et un office d'HLM à Boulogne-sur-Mer, donc qui a été ministre, là, Frédéric Cuvillier, qui a accepté, mais un peu en disant, bah écoute, c'est à la dernière tentative, on sait pas quoi faire de ce quartier. Et en plus, c'est assez drôle parce que c'était des maisons. Donc on dit tout le temps qu'il faut pas habiter les bars, pas habiter des maisons, mais il faut aussi démolir les maisons quand les gens sont très pauvres, parce que c'est chiant, quoi. Alors il m'a dit, bon, bah écoute, voilà, il y a 60 familles, 300 personnes, je te donne 1,2 million, là, et t'y vas, quoi. Alors, j'ai eu un doute quand même, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je ne vais pas y arriver, je suis trop vieux. Puis voilà, je n'ai pas réhabité Boulogne-sur-Mer. Et j'avais donc une jeune étudiante qui avait eu son diplôme d'architecture, qui cherchait du travail. Et j'ai dit à Sophie Ricard, écoute Sophie, j'ai un travail pour toi, mais ça va être dur. Il faut habiter une maison dans un quartier très populaire, une maison murée, tu vas la démurer, tu vas la réparer, tu vas montrer que c'est habitable, et par ton mode d'habiter, tu vas donner envie aux gens de faire pareil. Elle a accepté. Donc c'est absolument incroyable, parce que c'est un peu comme une sorte de gageur. Elle est blonde, un peu rousse, elle correspond même au modèle des gens qui habitaient, parce que là, c'était plutôt des gens un peu de période polonaise. Donc elle arrive là-bas, tout le monde lui demande d'abord si elle est déjà mère, parce que là-bas, à 16 ans, on est déjà mère, pour toucher l'allocation parent isolé. Donc elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle habite là avec un copain. Et d'un seul coup, les enfants ont découvert qu'une fille... les enfants jeunes et les ados, qu'une fille comme eux pouvait habiter là, que c'était habitable. Quoi. Et donc, lentement, on n'a pas fait une opération de 60 maisons, on a fait 60 opérations de une maison. Et en faisant comme ça, on a donc non plus appelé par des sigles impossibles, la maison avait une adresse, cette adresse portait un nom, et ce nom avait un contenu, une famille. Et donc, quand il y avait quelqu'un qui habitait cette maison et qui avait perdu son mari et où les enfants, mettons, étaient partis, et que normalement, on aurait dû déplacer cette personne dans les règles actuelles, puisque la maison est trop grande pour elle et elle ne correspond pas donc aux critères, ce qui voudrait dire que les pauvres, on les déplace. Quoi. On ne peut pas mourir dans la maison dans laquelle on a élevé ses enfants et dans laquelle son mari est mort. Et donc, du coup, on a commencé par cette femme, on a dit, elle restera dans la maison. Et cette maison était en très mauvais état, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait plus de plomberie et tout. Quoi. Et donc, on a commencé à reconstruire en disant, si le numéro de la rue du chemin vert, c'est elle qui habite, alors on ne pourra pas l'expulser, parce que c'est sa maison. Et donc, Sophie a commencé à faire un travail avec elle. Mais cette femme, elle n'attendait plus rien. Puisqu'elle attendait depuis des années qu'on lui change ses fenêtres, qu'on répare la toiture et tout, elle n'attendait que d'être expulsée. Et donc elle a mis un temps très long pour la réhabituer à avoir un projet, à se projeter dans l'avenir et tout. Et donc, lentement, on a fait les 60 maisons comme ça. Et quand Sophie est partie, un jour elle a dit, bah, je m'en vais, parce que ça a duré 3 ans. Et ils ont dit, oh non, tu peux pas partir, on ne pourra pas vivre sans toi. C'est assez drôle, c'est l'architecture a été... un objet de reconstruction, mais de reconstruction sociale. Parce que on nous avait dit, mais il faut faire un projet, une opération coup de poing, il faut vite mettre les logements aux normes, et puis pendant 8 jours, on sort les gens de chez eux, puis on les remet chez eux. Là, au contraire, on a fait les travaux tous les jours un peu chez eux. On a réintroduit l'idée qu'un ouvrier pouvait venir poser. L'ouvrier, c'est peut-être un mec de la rue, c'est peut-être un ancien ouvrier qui est au chômage, c'est peut-être... Et petit à petit, on a réintroduit un vrai comportement... comme dans un village ou comme dans une ville, que bah on peut boire un coup avec son plombier ou éventuellement on peut donner du travail à un plombier qui était au chômage. Et quand elle est partie, cette femme là a pleuré et a dit non, tu peux pas nous quitter. Et Sophie a dit mais si, je suis obligée de te quitter parce que j'ai du travail ailleurs. Et c'est dans un film, c'est magnifique, c'est vraiment, on pleure à chaque fois. Elle dit alors si c'est pour du travail, tu peux partir.
Est-ce que c'est ce que vous avez appelé cette haute qualité humaine, cette architecture à haute qualité humaine? On connaît la haute qualité environnementale, HQE, vous avez inventé, Patrick Bouchain, la HQH.
Ben oui, c'est-à-dire que s'il y a une haute qualité environnementale, là encore une fois, si on repart depuis la première conversation qu'on a eue ensemble, je voulais donc... réformer l'enseignement autour de l'environnement, et ça n'est pas que technique. Voilà, ça n'est pas... L'environnement, il est constitué du vivant. Et donc, j'ai mis du temps, c'est horrible de me rendre compte de ça, quoi, que l'environnement, c'est des hommes, des animaux, de la nature, ce sont des règlements, des comportements sociaux et tout. Et donc, un jour, quand est arrivée cette norme HQE, en plus, c'est toujours des noms pas possibles, quoi, ça s'appelle des DSQ, c'est des contractions de mots, mais HQE, j'ai fait exprès de mettre HQH, c'est plus beau, parce que c'est symétrique, en plus. Et on m'a dit, t'as fait une faute d'orthographe. J'ai dit, non, j'ai pas fait une faute, c'est HQH, haute qualité humaine. Et j'avais lu très tardivement un livre de Félix Guattari qui s'appelle « Les trois écologies », où Félix Guattari explique que, en effet, l'écosophie, donc on pourrait dire, est constituée de 3 pôles. Il y a donc le pôle économique qui concerne le social, il y a un pôle psychologique qui même qui concerne la culture, enfin qui est irrationnel, et puis il y a un pôle environnemental qui donc concerne la technique. Et donc, à tout le temps ne parler que de la technique, vous voyez, parler de matériaux de développement durable, s'il faut jeter les anciens matériaux parce qu'ils étaient pas bons et les jeter, mettons, en Afrique, parce que l'Afrique sert de dépotoir à cette période, est-ce que c'est de haute qualité humaine que d'aller polluer l'Afrique, par exemple. Voilà, c'est peut-être mieux de garder la merde chez nous, par exemple. Alors donc, je me suis dit, bah, je vais travailler sur cette haute qualité humaine où à chaque fois, c'est si on habite la terre, c'est l'homme avant tout. Donc, si on doit transmettre la terre à nos enfants, c'est nos enfants, ce sont des hommes. Et donc, j'ai développé la haute qualité humaine. Alors, des fois, ça fait rire, mais maintenant, ça commence à un peu faire son chemin. Moi, bon, je vais m'en retirer complètement de tout, là.
On va en parler dans quelques instants, Patrick Bouchard. Ce qui participe aussi à cette haute qualité humaine et ce qui rejoint une préoccupation qui est la vôtre, finalement, d'associer toujours au projet architectural d'autres types de projets, de l'insérer dans un projet culturel, artistique, c'est cette idée que vous avez eue de développer, on va dire, le 1% artistique pour en faire un 1% solidaire, un 1% scientifique. Comment est-ce que ça marche?
Alors déjà, c'est de partir toujours d'une règle ou d'une loi ou d'une habitude. Il y a eu en 1936, au moment du Front populaire, un ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, qui a souhaité à un moment donné un peu comme introduire les arts à l'école et d'introduire l'art à l'école par une commande publique qui était principalement, donc en général, une tapisserie, une fresque et tout, pour que dans les écoles, la présence artistique soit là. Bon, après, Jean Zay a été assassiné par les Allemands, la guerre, voilà, le Conseil de la Résistance avait pensé à réintroduire justement les arts à l'école et le 1%, mais après c'est tombé, puis après, sous Malraux, il y a eu le 1% artistique, donc c'était une façon de passer commande, principalement dans les bâtiments publics, voilà, l'université, il y a eu des très grandes commandes publiques, après il y a eu les villes nouvelles qui ont commandé comme ça. Et donc, un jour, je me dis, bon, moi, je vais pas quand même faire que des 1% artistiques, parce que c'est pas intéressant. Je vais essayer de faire un peu plus. J'ai pas remplacé le 1% artistique par social, j'ai rajouté. J'ai fait le 1% artistique et le 1% social. Et puis après, un jour, je me suis rendu compte que je pouvais rajouter le 1% scientifique, puisque c'est intéressant, éventuellement, que les universités aient des contrats de recherche par des objets que la collectivité construit. Donc, quand j'ai fait la piscine de Bègle pour Noël ma mère, j'ai mis les trois. J'ai fait le 1% culturel, le 1% social et le 1% scientifique.
Ça prend quelle forme, alors?
Alors, ça prend la forme de dire, admettons, prenons la plus simple, peut-être, admettons Bègle, vous construisez une piscine, vous êtes un maire écologiste, et voilà, vous posez pas de questions, parce que la piscine, bon, ça paraît normal, les gens réclament une piscine, et tout. Et moi, j'aime pas trop les piscines, et donc j'ai commencé à lire la réglementation des piscines, et vous apercevez qu'une piscine est un équipement qui consomme beaucoup d'eau, et qui rejette beaucoup d'eau, et qui est une eau polluée, parce que c'est une eau surchlorée. Et donc, vous jetez par jour et par baigneur 60 litres d'eau. Et quand on dit, voilà, il faut faire des économies d'eau, il faut arrêter d'arroser son jardin, on vous culpabilise éventuellement, mais on vous autorise à aller dans une piscine, ou même on vous favorise à y aller, alors vous allez jeter 60 litres d'eau. Et donc, quand j'ai raconté ça à Noël Mamère, il m'a dit, mais c'est pas vrai, et tout, j'y suis, on jette une eau surchlorée, qui, à la station d'épuration, d'ailleurs, par ce surchlore, détruit toutes les petites bestioles qui commencent à manger les matières organiques. Alors, on s'est dit, mais comment pourrait-on faire pour que ça devienne un sujet populaire, voilà, pour que... Alors, je dis, ben, on pourrait, il y a un département biologie à l'Université de Bordeaux, donc quelqu'un qui est un spécialiste de ça, un peu sur tout ce qui pourrait être d'ailleurs les maladies de peau et autres, qui a des contrats d'ailleurs avec les laboratoires Fabre, et on pourrait dire qu'au lieu toujours d'avoir des laboratoires privés qui financent la recherche, on pourrait avoir quand même une collectivité publique qui finance la recherche. C'est quand même mieux, quoi, que Fabre. Alors du coup, on a une fille qui a passé son doctorat donc sur comment déchlorer l'eau d'une piscine par des plantes. Voilà, comment on pourrait mettre un jardin au travail, toujours pour introduire la nature et tout. Ensuite, cette piscine, elle s'adossait à une ancienne piscine, et cette piscine ancienne, il fallait la détruire, mais la population voulait la garder, parce que c'est une piscine qui avait été construite au moment du Front populaire, et donc il y avait des gens qui vivaient encore, et pour eux c'était un équipement social très important. Mais on ne pouvait pas la réparer, cette piscine, parce que ça coûtait trop cher. Et donc j'ai pensé qu'on pourrait faire peut-être un équipement inattendu, c'est-à-dire faire une piscine sèche. C'est-à-dire de dire, de lancer une piscine, on fait une piscine pour vieillards. Est-ce qu'on pourrait faire une piscine pour des gens qui ne veulent plus se déshabiller? C'est-à-dire que peut-être qu'on veut aller, quand on est vu à la piscine, voir des corps jeunes à poil, on pourrait dire, mais voilà, on peut pas y aller comme un voyeur, ça serait pas mal peut-être de marcher et tout. Alors j'ai fait des vagues en bois, et donc pour les gens qui sont arthritiques, ou Alzheimer et autres, ils marchent dans l'ancienne piscine. Mais en même temps, cette piscine est devenue la piscine des handicapés, puisqu'on peut aller dans la piscine avec de l'eau en tant qu'handicapé, mais on peut aussi jouer sur ces vagues et tout. Voilà, puis après, comme c'était une piscine art déco, j'ai passé commande d'un sol en carrelage, donc à un artiste. Donc on a fait comme ça 3-1%, et du coup c'est comme si la communauté de la conservation du patrimoine, la communauté de la santé, la communauté écologique s'était reliée sur un équipement. Et donc comment on fait, ben, comme l'histoire est juste, comme l'histoire paraît intéressante, comme l'histoire est même gaie, on pourrait dire, tout le monde oublie que c'est hors règlement, puisqu'on n'a droit qu'à 1%. Mais moi, en multipliant les 1%, alors un jour, Noël Meyer dit, un jour tu feras peut-être 99% de 1%. En effet, c'était mon objectif.
Alors, quand on est bien là, Patrick Bouchain, votre volonté de développer une architecture chargée de sens plutôt que chargée de normes. Alors, peut-être faut arriver, on est à la fin de cette émission, à l'événement qui est la fermeture de votre agence en décembre 2016. Patrick Bouchain, vous la fermez, mais pas pour arrêter complètement.
Eh ben, je voudrais, en fin de compte, démontrer que je peux toujours rebondir ou créer ce cycle, quoi, parce que là, j'ai 72 ans. Et je ne me vois pas jouer au golf, parce que voilà, je vais avoir mal au dos. Et un jour, je me suis dit, mais en fin de compte, je touche une retraite, et c'est la première fois que je touche de l'argent comme une bourse. Et j'ai décidé donc de dire, je touche ma retraite par les cotisations que j'ai versées, mais je touche ma retraite par les cotisations que les gens qui sont en activité versent. Donc, je vais continuer à travailler, mais je ne vais pas continuer à travailler en prenant un travail que quelqu'un de jeune devrait avoir, puisqu'il faut qu'il l'ait pour qu'il verse, justement, pour que je touche ma retraite. Et je vais considérer que c'est une bourse. Et donc, je vais donner mon temps bénévole, mais c'est un temps républicain que je donne. Hein. C'est pas un temps caritatif, bénévole, comme ça. C'est un vrai temps. Je le dois à la société dans laquelle je suis. Et donc, du coup, j'ai envie d'enseigner. J'ai envie de me dire, ben, comme je reçois beaucoup d'étudiants qui, des fois, ne rencontrent pas dans l'enseignement des questions qu'ils se posent, et ils voient que moi, j'ai des fois répondu à certaines questions, je me dis, ben, je vais m'installer dans une école, mais pas pour en faire un cours magistral et autre, mais peut-être m'installer comme dans une école pour aider soit des jeunes professeurs, soit des jeunes étudiants à mettre en place un sujet de réflexion sur un peu tout ce que j'ai fait. Et comme il y a une loi qui est passé, que Fleur Pellerin donc, avait souhaité, qui s'appelle Loi Création, Architecture et Patrimoine, qui, elle, a été promulguée donc, en juillet 2016. Mais à mon avis, vu l'état politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, les décrets d'application ne passeront jamais. Et il y a un article 88 auquel j'ai participé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Permis de faire, qui dit tout simplement la chose, l'architecture est expérimentale, elle doit être jugée donc a posteriori et non pas a priori. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut laisser quelqu'un la faire et juger si elle est d'intérêt général ou commun ou pas. Et donc j'ai envie d'enseigner ça, ou j'ai envie tout au moins de créer une sorte d'école du dehors, qui serait une école rattachée à une école d'architecture, Paris-Belleville, et en même temps qui serait une école ouverte à d'autres écoles, puisque j'ai fait une expérience avec Bruno Latour à Sciences Po, une expérience à Rennes avec l'école de santé, ça serait de dire, est-ce que quelqu'un qui se pose, admettons, la question de, je sais pas, la santé publique, ou quelqu'un qui se pose que la santé urbaine, est-ce que, mettons, la psychiatrie, voilà, rencontre des difficultés aujourd'hui, est-ce que la psychiatrie, ou par l'alcool, ou l'alcoolisme, je sais pas, la drogue et autres, est-ce que ça c'est traité où? Est-ce que c'est traité dans les salles de shoot? Est-ce que c'est traité dans les urgences? Est-ce que c'est traité par Médecins du Monde? Est-ce que tout ça fait pas partie de la ville? Et donc j'ai envie de me donner 3 ans, puisque chaque projet prend 3 ans, donc j'aurai 75 ans. Si je vis jusque-là...
Il sera toujours temps de se mettre au golf.
Je me mettrai à autre chose.
Merci beaucoup Patrick Bouchain.
Fin de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Patrick Bouchain. À voix nue, attaché d'émission Claire.Signon, prise de son Marc Garvenès, réalisation Anne-Laure Chanel, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.